Iran, anatomie d'un pays révolutionnaire.
Depuis près d'un demi-siècle, l'Iran défie l'Occident et intrigue le monde. Théocratie, héritière d'un empire millénaire, au cœur des tensions du Moyen-Orient et aujourd'hui sous les bombes. Pour comprendre ce pays, il faut suivre le fil de ses révolutions.
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'iranologue Yann Richard.
Épisode 2. 1921, un coup d'État pour un nouveau régime.
Moi, j'ordonne. Tous les habitants de Téhéran sont tenus de garder le calme et d'obéir aux ordres des militaires. L'état de siège est décrété, passé 8 heures du soir. Hormis les militaires et les policiers, nul n'est autorisé à sortir de chez soi et à circuler dans les rues. Signé le commandant de la division cosaque de Sa Majesté et commandant en chef des armées, Reza. On poursuit notre conversation avec Yann Richard. On est en 1921. Qui est ce Reza qui signe ce document ?
Eh bien, les Iraniens ne le savent pas à l'époque. C'est un colonel des cosaques persans, c'est-à-dire un corps d'armée d'élite qui était dirigé par des officiers russes depuis la fin du 19e siècle. Et ce corps d'armée a beaucoup souffert de la révolution de 1917 parce que la Russie ne finançait plus et les officiers qui étaient là n'étaient plus payés. Certains sont passés à l'armée bolchevique, d'autres sont restés et finalement les Britanniques ont accepté de les payer en prenant sur l'argent des royalties du pétrole.
Donc ce Reza...
Ce Reza, c'était un officier qui a été remarqué par les Britanniques qui avaient à l'époque un stationnement militaire important à l'ouest de Téhéran, à Ghazvin. Et le général Ironside, conseillé par des Iraniens qui lui avaient dit « voilà quelqu'un qui est de valeur et qu'on peut utiliser », avait fait un deal avec Reza Khan en lui disant « on va vous armer », c'est-à-dire « on va vous donner un équipement neuf, propre », des bottes, des fusils, des chevaux, tout ce qu'il faut pour monter une opération contre Téhéran. Mais il y a deux conditions. La première, quand nous allons retirer nos troupes, et il était obligé de liquider ce bataillon britannique à Ghazvin parce qu'on avait besoin des troupes britanniques en Irak, où il y avait des révoltes contre l'occupation britannique. Donc, quand nous allons retirer nos troupes, ne tirez pas sur nous. Parce que là, c'est la fin de notre pacte. Et deuxième condition, ne touchez pas à la dynastie Qajar. On ne touche pas aux institutions. Vous prenez le pouvoir, mais le pouvoir politique. Vous ne changez pas la dynastie. Et Reza Khan a accepté ces deux conditions. Reza Khan n'était pas tout seul. Il était avec un journaliste... qui était un aventurier de la politique, un idéologue très progressiste, qui avait fait quelques études en France, qui était plus ou moins mollah, mais qui a abandonné son turban à ce moment-là, et quelqu'un qui savait qu'il avait la confiance des Britanniques. Il était très ami avec plusieurs membres de la légation britannique à Téhéran, et il avait besoin d'une force militaire, donc il y a eu cette alliance entre...
Comment il s'appelait ?
Seyed Ziauddin Tabataboy. Ouais. C'est un homme politique nouveau qui venait d'être envoyé au Caucase. Et c'est très intéressant aussi parce que après la Première Guerre mondiale, il y a eu des mouvements nationalistes au Caucase et qui ont été éphémères. Mais le gouvernement iranien de l'époque, de Vosouroddoleh, a envoyé Seyed Ziya pour essayer de prendre langue avec les Arméniens, les Géorgiens et surtout les Azaris de Bakou, en disant « nous allons faire une fédération du Caucase sous l'égide iranienne ».
Un grand tyran.
Un grand tyran pour effacer ces 100 années de domination russe sur une région qui nous a été arrachée de force. Il profitait de la révolution russe, en somme, pour retourner au Caucase. Et ça n'a pas duré, bien sûr.
Intéressant, comment la révolution russe crée un espace, un vide géopolitique, un vide géostratégique qui va être rempli à la fois par des Iraniens mais aussi, à vous écouter, beaucoup par les Anglais quand même.
Alors les Anglais ont essayé aussi de maintenir une présence au Caucase, ils n'ont pas réussi. Ouais. Leur corps expéditionnaire s'est rapatrié sur l'Iran, c'était celui du général Ironside. Mais disons, L'expédition de Seyed Zia a été faite indépendamment des Britanniques. C'est assez curieux aussi, cette politique iranienne nationaliste qui n'était pas approuvée par Londres et qui manifestait le désir des Iraniens de participer aux discussions à Versailles et d'avoir leur part dans la victoire. Et les alliés, notamment les Français et les Britanniques, disaient aux Iraniens « Vous avez déclaré votre neutralité au début de la guerre, et bien maintenant, payez-en le prix. Vous n'avez pas part aux dépouilles de ce que nous venons de conquérir dans l'Empire ottoman ou dans l'Empire russe.
Ouais, » Ça, c'est intéressant aussi, même sur le temps long, hein, de l'Iran qui veut être à la table des grandes puissances.
Toujours.
Toujours,
ouais. C'est très intéressant.
Ouais.
Et d'ailleurs, nous avons à la naissance de la SDN, qui est 1921, les Iraniens sont présents, ils envoient des délégués, et la SDN va protéger un peu la souveraineté iranienne contre les appétits, notamment des Russes, des bolcheviks.
Mais pas forcément des Britanniques. Et permettez-moi d'essayer de comprendre. Les Britanniques poussent Reza à intervenir, ils l'arment, si j'ai bien compris, ils lui donnent la force d'y aller. Et en même temps, Reza a un discours hyper nationaliste.
Oui. Alors
comment ça fonctionne?
En fait, de la part des Britanniques, c'est très intelligent. Le but, c'est de faire respecter l'ordre en Iran par des gens qui ne leur coûtent rien. Et eux vont protéger ce nouveau pouvoir, mais avec la condition que, évidemment, on ne remet pas en cause les intérêts pétroliers et l'intérêt de la frontière de l'Inde aussi, parce qu'il n'y avait pas le Pakistan, bien sûr. L'Inde allait jusqu'à la frontière iranienne, au Baloutchistan, et il n'était pas question de laisser passer une infiltration bolchevique ou islamique radicale pour déstabiliser l'Empire britannique des Indes.
Ouais, c'est pas encore la guerre froide, mais on a déjà la crainte bolchevique et l'Iran qui doit servir de glacis un peu dans la région.
Oui, et il y a même une barrière militaire qui est établie à la frontière de l'Iran pour empêcher toutes les infiltrations. Ça a été établi pendant la Première Guerre mondiale et ils n'ont pas pu empêcher le passage d'une équipe allemande qui est allée jusqu'à Kaboul, mais qui avait été décimée en arrivant à Kaboul et qui n'a pas pu faire ce qui était prévu par les Allemands, c'est-à-dire entraîner l'émir de Kaboul dans une guerre ouverte contre l'Empire des Indes.
Ce qui n'était pas non plus prévu par les Anglais, c'est que Reza prenne son envol et que la dynastie Qajar disparaisse en 1925, remplacée par la propre dynastie de Reza, les Pahlavis.
Oui, disons que ce qui a contribué à ça, c'est la déliquescence de cet empire, de cette dynastie, notamment du jeune Ahmad Shah, qui était un homme libidineux, qui aimait mieux être dans les casinos français qu'à Téhéran. Il était plus confortable, il pouvait prendre les eaux à Contrexéville et il allait à Monaco ou à Deauville. Enfin, il était très bien en France et donc il n'a pas fait ce qu'il fallait pour reprendre le pouvoir à Reza Khan. C'était la chance de Reza Khan. Et avant de destituer les Qajars, il a envoyé une délégation à Londres pour demander au général Ironside, qui était revenu dans la capitale, de demander de le relever de cette promesse. Donc il est resté fidèle à son engagement.
Ouais.
C'est un militaire de parole.
Voilà. C'est pas un coup d'État contre les Britanniques. C'est un coup d'État contre les Qatars.
Non, et il y avait la connivence des Britanniques, notamment pour les intérêts du pétrole. Ce qu'on a vu plus tard, en 1931 à 1933, quand il y a eu la renégociation de la concession du pétrole. Je vous rappelle qu'en 1908, on a trouvé du pétrole dans le sud-ouest de l'Iran et ça a été une richesse incroyable pour les Britanniques. Les Iraniens se sont inquiétés de voir que le trésor britannique gagnait beaucoup plus qu'en royalties sur ce pétrole et surtout la mainmise sur tous les investissements, sur la production, etc., c'était dans les mains des Britanniques. Donc ils ont exigé d'avoir leur part. On ne parlait pas de nationalisation à l'époque,
mais de renégociation. Non, ça c'est pour le 4e épisode.
Voilà, oui. mais c'est intéressant parce que justement ces négociations ont échoué du fait que les Britanniques, ils ont menacé Reza Shah s'il n'arrivait pas à signer cet accord ou à faire signer cet accord par son gouvernement, d'arrêter totalement la production de pétrole, c'est-à-dire toutes les royalties, et ça veut dire pratiquement tous les revenus extérieurs de l'Iran. Et évidemment, Reza Shah a cédé.
Ouais.
Et il a imposé à son gouvernement de céder.
J'ai dit rapidement le nom de famille de la nouvelle dynastie, les Pahlavis. On les connaît parce que c'est ceux qui vont rester au pouvoir jusqu'en 1979. sont-ils populaires? Est-ce qu'on sait ça, s'ils sont populaires, dans les années qui nous concernent ici,
oui,
avant la Seconde Guerre mondiale?
Alors, certainement, au début, Reza Khan était populaire, il le savait, Reza Pahlavi était populaire, parce qu'il a rétabli d'abord l'autorité de l'État en Iran, il a établi une administration centrale, il a répondu à certaines demandes des intellectuels qui étaient pour l'esprit jacobin, disons, imposer la même loi pour tous dans tout l'Iran, même si la corruption a fait que cette loi n'était pas vraiment appliquée de la même manière. Par ailleurs, il a eu des mesures tout à fait impopulaires et iniques avec les tribus nomades qui étaient très importantes à la fois en nombre et au point de vue économique dans le centre de l'Iran. Des tribus qui avaient besoin de nomadiser, d'amener leur bétail dans les hautes montagnes en été et de revenir dans les plaines en hiver. Donc Reza Shah a utilisé des moyens horribles en bloquant la transhumance, les transmigrations des tribus nomades. Et avec les religieux, il a eu aussi un peu comme Atatürk, mais de manière beaucoup plus brutale qu'Atatürk, des mesures pour brider le pouvoir religieux.
J'allais y venir parce qu'on ne peut pas faire l'impasse de la région. Et la Turquie moderne, c'est Atatürk qui la met en place avec un discours très hostile aux religieux qui regarde la modernité occidentale avec beaucoup d'intérêt. Est-ce qu'on peut dupliquer ce qui se passe en Turquie là? Et est-ce que Reza regarde Atatürk pas comme un mentor, mais comme quelqu'un qui peut servir de modèle.
Un peu comme un modèle. Et d'ailleurs, il a fait un voyage en Turquie. Il a beaucoup sympathisé avec Atatürk, qui lui a fait faire un voyage pour voir comment il appliquait ses réformes dans son pays. Les deux pouvaient se parler en turc, puisque Reza Shah parlait turc. Et il y a eu une influence des réformes kémalistes vers l'Iran. Mais Atatürk a conquis son pouvoir sur des armées étrangères qui occupaient l'Empire ottoman. Et c'était un homme qui avait fait des études, qui savait où il voulait aller, alors que Reza Shah n'avait pas fait d'études, il savait à peine lire et écrire. Et il a conquis son pouvoir sur des révoltes intérieures, c'est-à-dire sur sa propre population. Donc il n'y a pas eu de connivence de la population iranienne avec le nouveau pouvoir, il y avait plutôt une hostilité qui est allée en grandissant.
On sait qu'il y avait aussi des formes de fascination inverse de l'Occident pour les réformes kémalistes. Est-ce qu'il y avait ça aussi pour l'Iran? Est-ce qu'on sait si, parce qu'on va beaucoup en parler au moment de la révolution de 1979, la fascination d'intellectuels français pour l'Iran, est-ce qu'à l'époque, il y a déjà un regard particulier posé sur ce pays? Peut-être qu'on avait beaucoup lu Montesquieu déjà chez nous.
Oui, bien sûr qu'il y a un regard particulier, plutôt sympathique à tout ce qui va dans le sens de l'européanisation. En même temps, la brutalité des méthodes employées par Reza Shah n'échappe pas aux observateurs, y compris pour les journalistes auxquels on dicte ce qu'ils doivent écrire, etc. Il y a des tensions, notamment avec la France, à un moment, sur le problème de la formation des officiers iraniens. La question n'est pas aussi simple que ça. En réalité, Reza Shah a eu une politique très habile avec les Européens, faisant jouer les concurrents, c'est-à-dire que les principaux marchés étaient tenus par des Britanniques, mais il a essayé de faire venir des Russes, des Allemands, et aussi des Français, quelquefois, mais ça n'a pas tenu.
Et justement, j'allais le dire, l'équilibriste va tomber, ça va être le drame de la Seconde Guerre mondiale, ça sera l'objet de notre prochain épisode. Iran, anatomie d'un pays révolutionnaire, est un podcast original de France Inter.